Il y a eu des moments où, bah, je sais pas, financièrement, c'était difficile. Mais en fait, ce qui est assez formidable, c'est que à chaque fois que ça a été difficile, eh bien, à chaque fois, juste derrière, tu as une bonne nouvelle. Et ça, c'est très vrai, mais pas que dans l'association, c'est souvent vrai dans la vie. Il faut juste le voir. Et c'est là-dessus que tu rebondis. C'est-à-dire, c'est à toi de souligner le truc qui va pas bien ou le truc qui va bien. Et en fait, j'adore ce truc, les cadeaux mal emballés de la vie, parce que finalement, on grandit avec tout ça. Enfin, c'est pas moi qui je veux pas faire la philosophe de bas étage, mais voilà, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. J'ai la chance d'être sur une cause absolument merveilleuse parce que c'est une cause d'avenir. C'est l'avenir de notre pays qu'on prépare quand on s'occupe des enfants. Que ces enfants-là, je dis souvent, si aujourd'hui c'est les plus petits, les plus fragiles, c'est aussi nos adultes de demain. Et donc, il faut mettre le paquet, en fait.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Avant de vous parler de Charlotte, mon invitée du jour, je voulais partager avec vous une très grande nouvelle, une très belle nouvelle. J'ai été sélectionnée pour faire un TEDx. C'était un rêve que j'avais depuis quelque temps. Vendredi 6 mai, je serai donc sur scène. Le titre de ce TEDx sera « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». J'ai hâte de vous le faire écouter. En attendant, j'ai encore un gros travail de préparation, car même si c'est un rêve, c'est une belle sortie de zone de confort. 18 minutes sans notes, c'est un petit challenge. Allez, passons à Charlotte. Je me sens chanceuse de rencontrer des personnes aussi exceptionnelles qu'elle. Charlotte est belle, rayonnante, à sa place. Pendant ses études, on peut dire qu'elle s'est cherchée. Elle a commencé sa vie professionnelle en tant qu'attachée parlementaire, puis comme marketing manager. Alors qu'elle accouche de son deuxième enfant de façon prématurée, sa vie est chamboulée. Quand son fils a tout juste 9 mois, elle décide de créer la première association en France pour venir en aide aux familles d'enfants prématurés. Aujourd'hui, SOS Préma a 18 ans, 8 salariés et a déjà aidé des centaines de milliers de familles. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Charlotte Bouvard.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous présenter l'objet qui te présente, s'il te plaît?
C'est un bracelet où il y a écrit Sky is the limit. Et c'est une phrase que mon père nous répétait quand on était petits. Voilà.
Et elle veut dire quoi, du coup, pour toi, cette phrase?
Ça veut dire que tout est possible. Et que quand tu penses que tu es juste par rapport à toi et ce que tu es, en fait, tu peux tout faire. Donc, sky's the limit, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Tu peux aller loin, tu peux aller dans la direction que tu choisis. Mais en fait, c'est long à comprendre que pour ça, il faut se défaire de beaucoup de choses et qu'il faut écouter sa petite voix intérieure.
À qui dis-tu? Est-ce
Alors,
que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
je suis née à Paris. Le 29 septembre 1972. Et puis quand j'avais 8 mois, donc on habitait à côté de Notre-Dame, et quand j'avais 8 mois, mon père a été élu en Bretagne, dans les terres familiales, dans le Morbihan, et donc nous sommes partis habiter en 73. Nous sommes partis habiter dans le Morbihan pendant 10 ans.
D'accord.
Et en 83, on est revenus. Il était toujours élu, mais il faisait plus d'allers-retours.
Quand tu dis élu, c'était qu'est-ce qu'il faisait du coup?
Il était député du
D'accord.
Morbihan pendant 39 ans. Donc,
OK.
après avoir été résistant là-bas quand il avait 15 ans, pendant la guerre.
Ah bah oui, parce que oui, du coup, oui. Ah génial, hein. Et toi, bon, du coup, tu as le passage de Paris au Morbihan à 8 mois, je pense que tu n'as pas trop de souvenirs. Quel type d'enfance, du coup, tu as eu?
Alors, on était 5 enfants en 6 ans et demi, donc une
Bravo,
fratrie,
maman.
voilà. Donc une fratrie très soudée, très Il y avait beaucoup de joie, en fait, à la maison. On avait un grand, grand, grand jardin. On avait un chien, on avait un jar, on avait des... Voilà, on était une enfance à la campagne, dans un petit village dans les terres. Et puis, voilà, avec la découverte d'autres, voilà, de gens qui ne vous ressemblent pas forcément. Et quand on est enfant, c'est riche, riche, riche. Voilà. Donc, une enfance chouette, ouais. À ramasser des sauterelles dans le parc. Voilà.
Et à cette époque-là, tu te disais, oh, quand je serai grande, c'était quoi ton rêve ?
Alors, quand j'étais à cette époque-là, alors avant 10 ans, je ne sais pas, mais quand j'avais 12 ans, parce que donc je rentre, on revient à Paris en 83, donc je vais avoir 10 ans. Non, pardon, je vais avoir 11 ans. Je rentre en 6e et je voulais être missionnaire. Voilà, je voulais rentrer dans les ordres. Pas pour rentrer dans les ordres, même si j'ai la foi, mais pour aider les autres. Donc, je me voyais au fin fond de l'Afrique à m'occuper des enfants. Voilà, j'ai toujours eu cette envie de m'occuper d'enfants. Alors, ça faisait rire mes frères et sœurs qui se moquaient de moi. Et j'étais très vexée parce que je ne comprenais pas qu'on se moque de moi, alors que pour moi, c'était le plus beau métier du monde.
Voilà. T'es à quel niveau, du coup, dans la fratrie ?
Je suis la 3e.
D'accord.
Voilà, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi, un frère qui a 11 mois et demi de plus que moi, et après, j'ai 2 petits frères.
Ouais, donc, du coup, la place du milieu, quand on a ce genre de rêve, tu avais les grands frères et grands frères et grandes sœurs qui pouvaient, en effet, émettre un jugement.
Voilà, donc en fait, c'était plutôt les 3 grands et les 2 petits.
Ouais.
Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai été pensionnaire la dernière année, donc quand j'étais en CM2. J'étais en pension à Rennes, donc à 75 km de la maison, avec mon grand frère et ma grande sœur. Donc ça a été déjà, ça a cassé un peu cette enfance de campagne dont je parlais. Voilà, parce que c'est un rythme très différent que d'aller à la petite école primaire à côté de la maison avec la 2 chevaux de ma maman. Voilà, donc cette dernière année est très différente. Et puis après, on revient à Paris.
Et tu l'as vécu comment, le fait d'aller en pension ? Parce que là, je vois, moi, CM2, c'est l'âge de mon fils. C'est à la fois, il se prend pour un caïd, mais à la fois, c'est encore un bébé.
Ouais, je l'ai pas. Alors, sur le coup, j'ai pas beaucoup. Si, j'ai des souvenirs, mais j'ai pas de souvenirs d'émotion, sauf que je me sentais très seule. D'abord parce que j'étais la seule pensionnaire au primaire. Que tous les autres étaient au collège. Mais du coup, j'étais aussi la chouchoute du pion. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais je me sentais seule, ouais. Je me souviens, en plus, à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, c'est horrible. C'était un grand couloir avec ce qu'on appelait des box sur le côté, avec un rideau. Et voilà, chacun avait son lit, son lavabo, son armoire et son bureau et sa fenêtre, quoi. Donc, ouais, j'étais... Je pense que j'ai manqué de câlins à ce moment-là, ouais. Je pense, avec du recul.
En même temps, comme dit mon fils, maman, on n'est pas du même siècle, même pas du même millénaire. Et là, quand tu te dis, ah bah oui, en effet.
Oui, c'est ça. Exactement. C'est
dans, comme dans quand le je millénaire parle... dernier.
Ouais. Quand je parle de BEPC ou de carte orange à mes fils, j'ai arrêté maintenant, mais qu'ils me disent, mais maman, c'est pas possible, tu peux pas nous faire un truc comme ça. D'accord, ok.
Ok, je te parle pas des francs du coup. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, mais mon grand-père, il parlait en anciens francs. J'étais là, mais grand-père, c'est fini les anciens francs.
Ouais.
et du coup, l'arrivée à Paris, ça s'est passé comment ?
Alors, j'arrive à Sainte-Ursule, donc dans un
dans
collège.
Dans le 17e, ouais.
Voilà, dans le 17e, dans un collège de filles en uniforme, enfin, on était en bleu marine. Comment ça se passe ? Je suis très décalée parce que moi, mes copains, ils sont en Bretagne. J'ai des Star Trek alors que je préférais mes bottes en plastique, que j'avais échangées d'ailleurs puisque j'avais donné mes Star Trek contre une paire de bottes en plastique. Donc, je suis un peu décalée, mais ça va en fait. J'ai plutôt le souvenir d'années assez merveilleuses où j'ai rencontré des amis très proches que j'ai encore maintenant. Je ne me souviens pas du choc en fait, pas du tout. Mais j'ai gardé mes amis de Bretagne, bien sûr.
Ouais. Et au moment de faire du coup le choix pour les études, ça s'est passé comment pour toi?
Après le bac?
Oui, enfin, ou avant le bac, oui.
Alors, j'avais envie de faire plein de choses. C'était terrible. C'est hyper dur. Je trouve que c'est hyper dur de demander à des jeunes de 16-17 ans de se projeter après le bac. Je voulais faire plein de trucs. Je ne savais pas trop. J'adorais le dessin. Donc, j'ai commencé par faire 2 années d'art graphique, peinture, dessin, etc. Et puis, je me suis dit, non, en fait, j'adore ça, mais ce n'est pas le métier que j'ai envie de faire. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J'aimais trop de trucs. J'avais envie d'apprendre, apprendre, 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 faire plein de trucs. Puis à la fois, je pense que voilà, j'avais plein d'amis. J'avais envie de faire la fête. Enfin, voilà. Donc, j'ai décidé de faire du théâtre, une année de théâtre. Et puis, parce que j'adorais aller au théâtre, j'adorais tout ça. Et puis, je me suis dit, non, en fait, je n'ai pas envie d'en faire mon métier. J'adorais lire, j'ai décidé de faire un doc de lettres modernes à la Sorbonne, et puis après je me dis une fois que j'ai lu tout ce que j'aime, en l'occurrence le 19e, je me suis dit pas ça. Donc j'ai intégré une licence et une maîtrise de communication option politique, voilà.
Et quand tu as fait tout ça, comment ils ont réagi tes parents? Comment ils ont vécu le fait justement de faire ces sauts de puce entre les études?
Ils m'ont toujours suivie, toujours soutenue. Alors, on reproche toujours des trucs à ses parents. Hein. Maintenant, moi qui suis parent, je me dis, de toute façon, ils vont me reprocher des trucs. Je fais ce que j'estime de mieux avec mon cœur et ma raison. Mais pas toujours facile. Donc, avec du recul, je me dis peut-être qu'ils auraient dû me pousser, peut-être pour finir les choses, parce que j'aime tellement de choses que voilà. Puis à la fois, je trouve ça génial de se dire, on a des parents qui vous suivent, quoi que vous choisissiez, qui respectent. Et puis surtout, qui respectent le temps. C'est-à-dire que je pense que chacun a son temps. La psy avec qui je bosse parle de temporalité. Et dans ma temporalité, je n'étais pas prête encore à choisir, à être sur des rails qui allaient m'emmener sur un truc hyper figé. Donc voilà. Puis après, si j'ai intégré l'école de communication, c'est que c'était large. C'est comme les écoles de commerce, ça ouvre à plein de choses. On peut faire plein de choses. Et au moins, on a un diplôme en poche. Voilà.
Et là, du coup, tu as choisi la politique en rapport avec ce que tu avais vu avec ton papa?
Je pense que quelque part, oui, je pense que de toute façon, maintenant, quand j'ai essayé de faire un lien, parce qu'après, j'ai fait un CV, etc., le lien, c'était la communication par le dessin, par l'oral, par l'écrit. Enfin, voilà, c'est comment la relation à l'autre, en fait. Parce que finalement, la vie, c'est une succession de rencontres. À moins d'habiter dans un tonneau comme Diogène, je pense que la vie, c'est que ça. C'est que l'interaction avec l'autre. Voilà, la communication. Alors, je ne sais plus ta question de départ.
Savoir si ça avait un lien avec ce que tu avais vu avec ton papa, le fait de te spécialiser.
Oui, je pense. Parce qu'en fait, quand on m'a demandé de choisir une option, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis, j'avais cette espèce d'engagement pour mon pays, qui d'ailleurs est très flagrant aujourd'hui, mais qui coulait dans mes veines, je pense. Voilà. Je pense que puis ça m'intéressait au niveau comprendre le fonctionnement de tout ça. Je trouvais que c'était assez intéressant.
D'aller voir les coulisses.
Voilà, exactement.
Ouais. Et donc là, du coup, quand tu commences à travailler, qu'est-ce que tu cherches comme type de job?
Alors, au début, je savais pas trop. Je terminais mon mémoire. Il fallait que je fasse un mémoire. Et donc, j'avais fait un mémoire sur la scientologie qui s'appelait « La communication au service de la non-communication ». Puisque quand on regarde, au début, c'était les sectes. Et puis après, je suis allée vraiment sur la scientologie. Quand on regarde tout ça de près, en fait, on se rend compte qu'ils communiquent pour vous attraper dans les filets, et puis à la fin, vous n'avez plus le droit de dire, vous n'avez plus de parler, de penser, etc. Et donc, je trouvais ça assez intéressant, cette façon de faire, d'étudier et de... voilà, moi, la chose la plus importante dans ma vie et dans mes relations, c'est la liberté. Et je trouve qu'on acquiert durement cette liberté au fil des années. Ça m'intriguait beaucoup. Que des gens qui se sentent libres à la base ne le sont plus du tout parce qu'ils ont choisi quelque chose qui soi-disant devait les aider. Et en fait, au lieu de les aider, ça les emprisonne. Donc, Je fais ce mémoire, je travaille, voilà, j'y mets toute mon énergie. Et puis en même temps, mon père, donc, qui était toujours député, me dit écoute, j'ai mon assistante parlementaire en Bretagne, mais j'ai besoin de quelqu'un à temps partiel à Paris. Est-ce que pendant que tu prépares ton mémoire, est-ce que tu pourrais m'aider? Parce que à l'époque, il était sur des dossiers assez sensibles. Et donc, il faisait partie de la commission des affaires étrangères et donc, il avait besoin d'être en confiance. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour lui. Et voilà, donc ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a permis de voir encore les coulisses, les rouages. C'était assez intéressant comme expérience. Et puis voilà, puis après, j'ai changé au bout de 3 ans. J'ai changé et je suis partie dans le marketing. Donc, j'étais marketing manager dans une société de conseil en management, une société anglaise.
Et avant de parler de ce job de marketing manager, ça fait quoi de travailler pour son papa?
C'est très étrange. À la fois, c'est à la fois fluide et à la fois, c'est difficile de trouver ses marques parce que, voilà, mon père était quelqu'un de très exigeant envers lui-même, envers les autres. Et du coup, je pense que je suis pareille. Et du coup, j'essayais de bien faire tout en ayant mon âge et en ayant mon peu d'expérience. Mais il m'a aidée et voilà. Et donc, ça s'est bien passé.
Et pourquoi, du coup, tu es partie sur un job qui n'avait rien à voir?
Parce que je me disais que c'était bien de bosser avec son père, mais qu'il y a des limites, quoi. C'est bien pour avoir le pied à l'étrier. Je pense que... Alors, après, voilà, j'en parlais avec mon boucher il n'y a pas très longtemps, qui me disait, ah ben moi, je prends mon fils et les amis de mon fils parce que je sais d'où ils viennent et que j'ai besoin de travailler en confiance, etc. Donc, je me suis dit, bon, ça me met un peu plus à l'aise sur ce pied à l'étrier qu'on m'a mis. C'était vachement intéressant. Franchement, c'était intéressant, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ça y est, tu as eu... Tout ça, tu t'es fait une idée de tous les rouages, tu as été un peu plus dans la précision et je trouve ça très intéressant. Maintenant, tu vas voler de tes propres ailes. Et lui m'a poussé aussi beaucoup à, voilà, maintenant en disant, bon, ça bon. Suffit, ouais, c'est bon.
Donc, et ça s'est passé comment du coup ce job de marketing manager?
J'ai répondu à une annonce, voilà, et puis ça s'est super bien passé, sauf qu'en fait, c'était à l'époque où, donc c'était en 2001, en septembre 2001, et c'était la crise, c'est juste après septembre 2001 déjà, donc le monde est très bousculé, et après il y a eu la crise des sociétés de conseil, donc en 2003... 2003-2004, donc finalement, je suis restée que 2 ans et demi dans ce job, voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais une bêtise, 2 ans, ouais.
Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ce job, du coup?
Alors, je faisais partie du comité de direction, donc j'ai pu préparer mon départ, puisqu'en fait, avec cette crise, il y a eu une charrette de licenciement, puis deux, puis trois, puis quatre. Et donc, le bureau de Paris, puisque moi, ma boss était à Londres, et le bureau de Paris a été réduit à peau de chagrin. Et donc, j'ai préparé mon départ en passant des entretiens. J'étais très proche de la DRH qui m'avait recrutée et qui est partie aussi. Et donc, voilà, ça se passait très bien comme départ. Et puis, lorsque j'ai été licenciée, donc avec la troisième charrette de licenciement ou la quatrième, je ne sais plus, ben, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte.
Donc, de ton deuxième enfant?
Voilà. Et donc, voilà, mais je suis partie très bien, en fait. J'ai pas du tout, je me suis dit, j'ai appris tellement dans cette boîte, on m'a fait confiance. C'est un job dans lequel je me suis vraiment éclatée. Je m'occupais de la com interne, la com externe, des relations presse, l'événementiel, tout ça. J'ai vraiment aimé travailler là-bas, j'ai vraiment aimé les gens avec qui j'ai travaillé. Et du coup, j'ai pas du tout... Alors, il y a plein de salariés qui sont mis ensemble pour attaquer le bureau de Londres, etc. Et j'ai pas du tout voulu rentrer là-dedans. Parce que je trouve que quand on vous donne votre chance, parce que moi, je ne venais pas du tout de l'univers du marketing, même si ça avait été dans mes études, je trouve que voilà, il faut être réglo. Donc, j'ai passé des entretiens enceinte en me disant, ben voilà, j'aurai mon deuxième enfant et puis après, je retravaillerai. Enfin, pour moi, la route était totalement tracée, c'était préparé et voilà, j'avais des bonnes pistes. Et patatras, j'accouche prématurément. Voilà.
Et là, toi, juste avant qu'on parle de ton accouchement prématuré, parce que Ça va être le déclencheur de toute la suite. À ce moment-là, tu commences potentiellement à avoir des pistes pour trouver un job, parce que c'est quand même un vrai sujet de se dire... Enfin, je sais qu'il y a... Bon, après, le congé mat, c'est 4 mois, mais les gens ne sont pas forcément patients de se dire, allez, je vais attendre qu'elle accouche, quoi.
Ouais, j'avais 2 bonnes pistes, mais j'y allais vraiment cool. Donc, voilà, il n'y avait rien encore de réglé. J'avais une grossesse de rêve, en fait. C'est-à-dire que je passais des entretiens. J'étais partie avec quelques mois de salaire, puisque les charrettes de licenciement, voilà, ils avaient fait les choses réglo. Donc, en fait, j'avais pas le problème financier, ce qui est quand même bien agréable quand on se fait licencier. Et puis, j'avais un profil qui me plaisait, parce qu'un profil assez généraliste et à la fois assez pointu. Dans ce que je passais comme entretien, et ça s'est bien passé. Et pendant ma grossesse, je me suis dit, tiens, tu vas faire tout ce que tu n'as jamais le temps de faire. Donc, j'avais ma nounou à la maison, je n'allais pas la licencier puisque j'en avais un deuxième qui arrivait. Donc, j'avais du temps. Donc, j'ai fait des cours de dessin, des cours de peinture, des cours de cuisine. Voilà, à chaque fois, on se dit, ah, si j'avais le temps, je ferais ça. Bon, là, je l'ai fait, en fait.
Tu en as bien profité.
Ouais, j'en ai bien profité. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour en profiter.
Ouais. Du coup, il est né à combien de temps?
Il est né à presque 7 mois. Voilà. Okay. Et mon fils aîné, Alexis, avait bientôt 3 ans.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est... Enfin, tu sais pourquoi, du coup, il est... Enfin, tu as eu des signes avant-coureurs de...
Alors, j'ai eu des signes, mais que j'ai pas voulu voir. Enfin, que j'ai pas voulu voir, sans du tout me flageller. Hein. C'est-à-dire que je me disais, bon, j'ai des contractions, mais c'est normal, c'est mon deuxième, je suis à bientôt 7 mois, etc. Ça faisait une petite semaine que j'avais des contractions, et en fait, j'avais ce qu'on appelle un hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire le placenta qui se décolle et tout l'organisme qui se bat pour créer un hématome, pour recoller le placenta. Alors, en début de grossesse, c'est pas grave du tout, en fin de grossesse, c'est très grave, puisque là où il se décolle, enfin, ça, je ne le savais pas à l'époque, mais en fonction de là où il se décolle, l'enfant peut y passer, en fait, peut mourir. Donc, voilà. Et puis, donc, je me suis réveillée un vendredi matin en hémorragie. Et en fait, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire, je suis allée... d'abord, je suis allée prendre une douche. Je me suis dit, oh, t'en as trop fait. C'était vraiment le discours qui résonne dans sa tête en disant, arrêtez de vous regarder le nombril, vous n'êtes pas malade. OK. Sauf que maintenant, je mets un gros bémol à ça, c'est qu'on porte la vie. Donc, OK, on n'est pas malade, mais voilà, il faut faire très attention à soi quand même, et il faut que les gens prennent soin de la femme enceinte. Ça, c'est vraiment très important. Donc, j'ai eu le mauvais réflexe puisque je suis allée là où je devais accoucher, dans une maternité de niveau 1 dans le 17e arrondissement.
OK.
Et puis, du coup, voilà, je suis arrivée, on m'a césarisée en urgence, et Maxence est parti à l'autre bout de Paris, dans le 14e, à Saint-Vincent-de-Paul, en réanimation, une réa qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, pendant 3 jours. Et je l'ai rencontré le 4e jour, lorsqu'il est allé pendant un mois dans un deuxième hôpital. Voilà. Et si j'avais su, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, eh bien, j'aurais identifié en amont un hôpital de niveau 3 en me disant, bah, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà où j'irai, c'est-à-dire là où il y a une réanimation, je serais allée là-bas, ou j'aurais même appelé les pompiers plutôt, et non pas pris mon temps, réveiller le petit, lui donner le biberon, enfin voilà. Mais bon, après, il y a une autre façon de regarder, c'est que si j'avais fait tout ça, peut-être que j'aurais pas monté l'assaut, donc voilà.
Oui. Et donc là, du coup, tu rencontres ton petit bonhomme à 4 jours. Il est hospitalisé du coup pendant un petit bout de temps, parce que quand c'est des prémas, tu le ramènes à la maison.
Il reste un mois dans le deuxième hôpital. En fait, il sort de réa le 3e jour. Et le 3e jour, on me dit, donc moi j'avais été césarisée, donc j'étais pas hyper agile, on va dire, dans mes mouvements. On me dit, bah, y a un SAMU qui va venir vous chercher pour aller voir votre bébé. Pour rencontrer votre bébé. Donc, je m'habille très difficilement. Je me rappelle, il faisait hyper froid. Donc, j'avais des bottines avec une fermeture éclair. Je me rappelle parce que je me revois alors que ça a fait 18 ans en janvier. Il est né en janvier 2004. Et donc, je me revois en train d'essayer de mettre mes fermetures éclair en me baissant. Voilà, j'avais super mal. Et je me disais, mais c'est pas grave, tu vas rencontrer ton bébé. Et en fait, le SAMU m'a oubliée. Et donc, je suis restée 4 heures comme ça ou 3 heures sur le lit en attendant, attendant, attendant. Et donc, voilà, je ne l'ai rencontrée que le quatrième jour. Je donne ce détail parce que j'y reviendrai, mais parce que on ne peut plus avoir des choses comme ça. C'est plus possible. Voilà, en France, de se dire que la priorité n'est pas de réunir les parents et l'enfant, c'est plus possible. Voilà.
Ouais, c'est donc, clair. Après, je vois aujourd'hui, on parle tellement du pot à pot, de tout ça. Enfin, on explique tellement à quel point c'est important pour, ouais, que, enfin, moi, je sais que pour mes deux enfants, on a passé, je sais plus quoi, 1 heure, 2 heures suite à la naissance en pot à pot, quoi. Et tu dis, enfin, surtout dans les césariennes d'urgence où ces petits bouts de chou, ils ont été perturbés aussi, quoi.
Ouais, non, mais c'est essentiel. Ne pas séparer, en fait. Il faut, nous, on a le hashtag zéro séparation. Il faut absolument que ça soit une priorité parce que quand on regarde un parcours de maternité et de naissance, en fait, c'est jonché de ruptures. Et quand on va dans les pays du Nord, déjà, il y a la golden hour qui est vraiment l'heure où on ne doit pas séparer la mère et l'enfant. Même Préma, il est soigné, il est sous respiration artificielle, mais sur le ventre de la maman, en fait. Donc, à moins d'être dans des cas hyper graves, mais voilà, là, on essaye vraiment de préserver au maximum le lien parent-enfant. Ouais. Donc, pour revenir à mon histoire, donc, je le rencontre quand il a 4 jours.
Là, du coup, vous êtes plus inquiet par rapport au fait qu'il vive ou il y a encore des inquiétudes?
Bah, de toute façon, en fait, on est dans ce parcours-là, on est toujours inquiet. Même 18 ans après, on se demande si ce qui se passe, genre la crise d'ado, heureusement, elle s'est terminée, mais est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas vu quand il était petit? Enfin, voilà, on reste complètement... je pense qu'on est parents de Préma pour toujours. Eux ne sont pas Préma toujours, mais nous, on est parents de Préma toujours. Oui, bien sûr qu'on est inquiet. On est inquiet et puis autour de lui, voilà, à l'époque, il y avait 3 grandes chambres pour 17 lits, donc 17 berceaux, 17 couveuses en fait. Et qui, heureusement, il y a eu des travaux et maintenant ce sont des chambres individuelles où les parents peuvent rester. Donc à l'époque, il y avait des horaires de visite parce que les parents étaient encore considérés comme des visiteurs et ça, c'est tout le travail de l'association depuis bientôt 18 ans puisque j'ai créé l'association 9 mois, jour pour jour, un jour près après la naissance de mon fils, donc en octobre 2004. Et donc, dans cette chambre où il était, il y avait 7 ou 8 bébés dans la chambre numéro 3. Et il y en a 2 qui sont décédés pratiquement sous mes yeux. Donc, en fait, ouais, c'est vraiment la roulette russe, quoi. C'est terrible. Donc, oui, bien sûr qu'on est inquiet. On le laisse tous les soirs. On se demande si le lendemain, il va être là, s'il a pris 10 grammes, 20 grammes. Enfin, c'est un quotidien qui succède à un autre quotidien, en fait. Chaque jour est un jour de gagner. Et c'est vrai que c'est absolument terrible et traumatisant pour des parents.
Ouais, la notion du temps, on en parlait hors micro tout à l'heure de la notion du temps. Et là, et c'est drôle parce que j'en profite pour l'embrasser et la remercier parce que c'est Dominique Bail, la présidente de l'association Petit Prince, qui nous a mis en relation. Et c'est drôle parce que je voulais t'en parler tout à l'heure quand on discutait du temps hors micro parce que Dominique, elle a lu un long passage sur le temps, sur... alors, je n'ai plus le truc exactement en tête, mais c'était génial d'expliquer qu'en effet, le temps, bah, il pouvait, en fonction des moments dans ta vie, avoir une notion, mais qui est tellement différente. Et là, en effet, clairement, j'imagine... moi, j'ai vécu mon neveu en réanimation pendant... je crois que ça avait duré 1 ou 2 journées, mais ça a été la journée la plus longue de notre vie, quoi. Enfin...
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Pour les parents de Préma, en fait, c'est impossible de se projeter. Et c'est terrifiant, en fait, de ne pas pouvoir se projeter. Donc ça, c'est vraiment un traumatisme. Ouais.
Et donc là, tu ramènes ton petit bonhomme à la maison. Comment, du coup, arrive cette idée de se dire que tu vas créer cette association merveilleuse?
Alors, oui, donc il arrive à la maison, parce qu'on parle souvent d'un retour, mais ce n'est pas un retour, c'est une arrivée à la maison, puisque c'est des nouveaux sons, des nouvelles odeurs, des nouvelles lumières, et avec un bébé qui est immature, donc souvent qui pleure, qui a mal au ventre, etc. D'abord, il est tout petit, puisqu'on peut les faire sortir à 2 kilos, Donc, il est petit, il est immature, il s'adapte à un nouveau milieu. Et là, c'est le moment terrible, puisque, et c'est souvent là que les parents nous appellent, les mamans nous appellent, parce que, en fait, c'est au moment où il va mieux qu'on nous dit, il va bien, en fait. On nous dit, vous pouvez repartir voilà, chez vous avec votre bébé. Et en fait, c'est là où, en plus de l'immaturité digestive, en plus de ce nouvel environnement que je viens de décrire, en fait, c'est là où la maman, souvent, elle s'autorise à lâcher, en fait. C'est-à-dire que le psychisme est très bien fait. On se met dans une bulle, il faut faire face à l'accident de vie dans le tunnel. Boum, on y va. Chaque jour est un jour de gagner. On regarde vers la sortie. Il faut qu'il régule sa température. Il faut qu'il il s'alimente tout seul, qu'il déglutisse bien, etc., etc., qu'il fasse plus de bradycardie, qu'il fasse plus, enfin, que tout aille bien. Et en fait, on arrive à la maison et tout le monde dit, bah voilà, c'est bon.
Ouais, c'est bon, il y a la maison, la vie reprend son cours normalement.
Voilà, exactement. Et là, c'est le deuxième.
T'es contente.
Ouais, t'es contente, hein, c'est ce que tu voulais, donc tout va bien. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule. Là, c'est vraiment le retour de bâton, c'est-à-dire que le psychisme s'autorise parce que justement, tout le reste, on va dire, est au calme. Enfin, tout le reste. Je vous dis, c'est des enfants qui pleurent beaucoup, mais au début. Mais et là, c'est boum, le retour de bâton. Et c'est terrible. C'est vraiment. Et on a parfois des mamans qui disent, mais je ne comprends pas. Tout le monde nous dit que ça devrait aller. Tout le monde est content, machin. Et en fait, moi, ça va de plus en plus mal. Mais oui, mais c'est juste normal. Donc, tu as le choix. Soit tu mets ça sous le tapis. C'est pas propre à la prématurité, ça doit résonner sur plein d'accidents de vie ou plein de choses un peu traumatisantes. C'est ça le chemin de vie, c'est voilà. Et donc soit tu le mets sous le tapis, soit voilà, tu comprends.
C'est la dépression dans le sens littéral du terme, c'est que tu dépressurises.
Exactement.
En fait.
Exactement. C'est exactement ça. Et c'est extrêmement difficile, vraiment. Et puis c'est souvent l'entourage, voilà, est très souvent maladroit. Ça a été très tabou pendant des semaines, des mois. Personne, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de faire-part, il n'y a pas de félicitations. Tout le monde, mais ils savent pas en fait, c'est la maladresse. Et donc, et là, en fait, c'est l'invasion. Ah, on vient, mais non, en fait, il est fragile, il ne faut pas apporter des microbes. Alors, on ne sait plus, on va le mettre sous cloche, mais non, il ne faut pas le mettre sous cloche. C'est un bébé comme les autres, mais non, ce n'est pas un bébé comme les autres. On va à la pharmacie, on nous dit, ah, mais il est tout petit, il vient de naître. Ben non, en fait, il a 3 mois. Et on se sent obligé de se justifier. Puis un jour, on dit, mais en fait, OK, d'accord, il est tout petit, il vient de naître. Un jour, on ne justifie plus. Mais ouais, c'est. Et puis à la fois, on a besoin de se faire reconnaître comme maman de préma, c'est-à-dire une maman qui est en difficulté, qui a souffert, qui est passée par ça. Parce que ça fait du bien quand quelqu'un dit « Ouais, je comprends ce que tu vis. » Et c'est un peu l'objet de l'association. C'est voilà, on a vécu ça, on sait exactement ce que tu vis en ce moment et c'est normal, on est là pour toi. Donc, c'est un des objets de l'association. Donc, comment est née l'association ? Eh bien, c'est l'enfer jusqu'à l'été. Et quand je dis l'enfer, c'est l'enfer total. C'est-à-dire, il hurle, Maxence hurle nuit et jour. Il a une régurgitation, donc un RGO, reflux gastro-œsophagien, en message codé. Et donc, en fait, ce RGO est interne, donc ça lui brûle l'œsophage. Comme il ne régurgite pas à l'extérieur, en fait, on ne voit pas. Et donc, il fait une œsophagite, c'est-à-dire l'œsophage qui est complètement brûlé par cette acidité de régurgitation. Et donc, je vais voir un médecin, je me rappelle, grand pédiatre, côté de là où j'habitais, je ne sais plus combien la consultation. Mais voilà.
Ah bah dans le 17e, ils sont sympas, les pédiatres.
Alors, moi, je n'étais pas dans le 17e à l'époque. Non, j'avais accouché dans le 17e, mais je n'étais pas dans le 17e. Et à l'époque, j'habitais Neuilly.
Ok.
Ouais,
c'est pareil. Déjà,
pédiatre là-bas, ouais, c'est pareil. Bon, j'aime pas trop mettre les trucs dans les cases, hein, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, le soi-disant un super pédiatre qui me dit, mais madame, votre bébé n'était pas prématuré. Ah bon ? Bah oui, il faisait plus d'un kilo cinq. Et en fait, ça, c'est la définition de la prématurité d'il y a 70 ans, donc il y a 50 ans à l'époque. C'était les bébés de moins de 1,5 kg sont prématurés. Et puis, en fait, on a compris il y a 70 ans maintenant que c'était une question de terme et de maturité d'organes et non pas une question de poids. Le poids, ça ne veut rien dire, rien du tout. Donc, voilà, en fait, ils n'y connaissaient rien et parce que les médecins de ville ne sont pas formés à la prématurité. Et ça, c'est un problème que rencontrent les parents. Il y en a très, très peu. Alors maintenant, il y a des réseaux de périnates qui en forment quelques-uns, mais la plupart ne sont pas formés. Et or, pour suivre un préma, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut savoir quand est-ce qu'on diversifie, quand est-ce qu'on vaccine, etc. etc. Bon, ça ne s'improvise pas. Donc, voilà, je me suis sentie encore plus seule au monde. Donc, Maxence hurlait. Comme il avait ce reflux, il n'était bien que debout. Donc, moi, j'étais bien que assise. Donc, je dormais assise avec mon bébé dans les bras. Et j'ai vu le moment où j'allais vulgairement péter un câble. Et je me suis dit, mais en fait, si moi, je suis dans cet état-là, qu'est-ce que c'est pour d'autres qui sont isolés, soit socialement, soit géographiquement et,
qui doivent reprendre le boulot et
ouais. En plus, le cadre légal n'était absolument pas adapté à l'époque. Et donc, bon, l'été arrive, ça va mieux avec le soleil, avec voilà, le repos, etc. Et puis, à la rentrée, on est donc au mois de septembre, je suis à la terrasse d'un avenue Charles de Gaulle, à Neuilly, je me rappelle, avec une copine. Je suis à la terrasse d'un resto et j'entends la voix qui me transporte quelques mois en arrière, la voix de Aïcha, qui était la responsable des puéricultrices qui avait accueilli mon fils et qui m'avait accueilli lorsque je l'ai rencontré. Parce que cette rencontre, je ne l'ai pas décrite, mais ça a été un truc de dingue. Et j'entends sa voix, je me retourne, comme ce qu'on appelle le PTSD, post-traumatic syndrome. Boum, tout d'un coup, je me remets là, ça y est, je suis dans l'univers de la néonate avec les bips. Ça y est, ça clique dans mes oreilles. Et là, je me précipite vers elle. Elle me dit, ah, la maman de Maxence, comment allez-vous? Je dis, bien. Comment ça s'est passé quand il est arrivé à la maison? Je dis, ça a été l'horreur. Ah bon, mais pourquoi vous ne nous avez pas appelé? Et j'ai dit, mais j'ai même pas pensé, en fait. J'étais tellement dans le tunnel, j'étais tellement dans la mouise, j'ai même pas pensé à vous appeler. Et donc voilà, et elle me dit, ah ouais, et puis en plus, il n'y a pas d'association. Et là, ça a fait gling. Parce qu'en fait, les changements de vie dont tu parles et qui est l'objet de ton podcast, ben en fait, c'est souvent un déclic. Ça n'arrive jamais sur un terrain vierge. Il y a déjà eu plein de petites choses, mais tout d'un coup, il y a le déclic qui fait c'est que ça y est.
Tu vois, ouais. Là, moi, ça a été de voir une flamme dans un feu de cheminée. C'est ça. Et après, en fait, ce qui est fou, c'est que tu remets les éléments et tu te rends compte, en fait, même aujourd'hui, tu ne vois pas plus tard qu'il y a 2 jours, je dis à mon mari, mais ce qui est un truc de ouf, c'est qu'en fait, ça, je l'ai écrit il y a 2 ans, mais je l'ai mûri aujourd'hui, mais je l'ai écrit il y a 2 ans. Et c'est incroyable de se dire qu'il y a des trucs que tu as en toi, mais tu n'en as pas la conscience, en fait. C'est fou.
C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais tout d'un coup, c'est le déclic. Alors, toi, c'est la flamme, moi, c'est la voix. Enfin, cette phrase, en tout cas. C'est souvent apporté par des gens qui n'en ont pas conscience non plus. C'est-à-dire la petite phrase. Et tout d'un coup, vous, ça... Dans notre tête, ça résonne tout d'un coup et c'est le déclencheur. Et donc, c'est le déclencheur. Et je me dis, OK, je vais monter cette association. Plus jamais des parents vivront ce que j'ai vécu seul. Ils ne seront plus seuls et ils auront quelque chose vers lequel se retourner. Et en plus de ça, tout de suite, j'ai eu cette intuition, mais vraiment, que ça allait être quelque chose de grand. Et que ça n'allait pas s'arrêter juste à l'aide aux familles, que ça allait être grand. Et qu'il fallait, voilà, tout de suite, ça se dessine en moi comme un PowerPoint dont j'étais la spécialiste en conseil en management. j'ai les 3 axes, clac, clac, ça se dessine. Et je dézoome l'histoire. OK, quels sont tous les acteurs de la prématurité? Il faut travailler avec chacun. Quel est le truc transversal? Quel est le truc... Enfin, voilà, je construis mon truc, mais en 3 secondes dans ma tête. Après, je trouve un nom, je monte l'association, j'appelle la maison des associations de Neuilly, où j'habitais donc à l'époque.
Ah, j'ai pris des cours de couture là-bas quand j'étais petite.
Ouais.
Ouais. Voilà. C'est mes mercredis après-midi là-bas.
Voilà, bah c'était rue du Château pour Neuilly
ouais.
à l'époque. Et ça n'existe plus d'ailleurs.
C'est rue Perronnet, je crois, à l'époque quand j'étais
petite. Ah ouais, ouais. Ok. Et donc, voilà, me voilà, Pont de Neuilly, avec, je rencontre une adjointe au maire géniale qui s'appelle Christine Giraud-Sever. Elle me dit, je vous passe un bureau 2 heures par semaine. Je dis, c'est pas suffisant, 2 heures par semaine. Oui, mais bon, au début, voilà, vous n'avez rien fait encore. Donc je vais déposer des statuts. Et en fait, on ne peut pas monter une association tout seul. Donc, je demande à ma voisine de couveuse qui s'appelle Caroline. Je lui dis, est-ce que tu veux bien monter l'asso avec moi? Elle me dit, écoute, oui, mais moi j'ai tellement de boulot, je pourrais jamais rien faire. Je dis, non, mais c'est pas grave, juste au moins sur les statuts, il faut qu'on soit deux. Elle me dit, mais bien sûr, voilà, on est toujours en contact d'ailleurs. Elle habite à l'étranger, mais elle est en Asie. Et voilà, donc c'est parti. Voilà, la grande aventure.
Quand du coup tu as cette idée, ton mari, ton entourage, comment ils réagissent?
Alors, mon ex-mari. Me regarde un peu, comment dirais-je, peut-être un peu du coin de l'œil, l'air de dire oui, bien sûr. Mais, et puis mon entourage, alors il y a eu ceux qui m'ont soutenue, et puis il y en a eu d'autres qui ont, par bienveillance, qui m'ont dit mais ça va pas, non, mais ça va pas, tu vas sauver le monde. Tu as 31 ans, tu es une jeune cadre dynamique, tu gagnes super bien ta vie, qu'est-ce que tu vas aller faire, aller sauver les autres, mais n'importe quoi. Et en fait, si je les avais écoutés, j'aurais rien fait. Donc, ne jamais écouter ceux qui essayent de vous dissuader quand vous avez l'intime conviction que c'est votre chemin et que vous allez tout faire pour y arriver. Donc, c'est un conseil que j'ai déjà donné à plusieurs personnes parce qu'il faut y aller, quoi. Sinon, on a trop de regrets. Et voilà. Donc, je n'ai même pas pensé à ne pas y aller. Hein. Je me suis dit, mais en fait, ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas compris ce que j'allais faire. C'est n'importe quoi. Voilà, alors je sais pas si c'est de l'inconscience ou voilà, donc je pars dans cette aventure, mais à toute balle, hein. Franchement, j'y vais, mais comme une dingue. J'y passe mes nuits, mes journées, je fais du PowerPoint, j'ai un ami, deux amis, trois amis qui m'aident en disant ok, alors j'ai réfléchi, la vision globale c'est quoi, enfin voilà, donc c'est super, c'est le début part super bien. Voilà.
Et là, à ce moment-là, parce qu'une association, il y a toujours la problématique de savoir comment tu vis, en fait, quand tu es président d'asso. Comment tu as pu gérer ce sujet-là?
Alors, très bonne question, parce qu'en fait, j'ai donné la présidence au bout d'un an et demi. C'est-à-dire, je me suis dit, je me donne un an et demi de bénévolat, au-delà desquels, avec Pôle emploi, en fait, je ne pourrais pas aller. Et puis, au bout d'un an et demi, il faut que je gagne au moins la moitié de ce que je gagnais avant, parce que c'est ce dont j'ai besoin. Donc, en fait, je me fais un plan comme ça et je me dis, en fait, il faut que je gagne que la moitié parce qu'il faut d'abord que je recrute parce que j'ai vraiment cette vision de l'association qui doit être créée, montée, dirigée comme une entreprise. C'est-à-dire, on ne peut pas tout demander à des bénévoles. Les bénévoles, c'est un plus, c'est génial. Alors, en l'occurrence, à l'asso, c'est la force du terrain. Mais en revanche, si on veut que ça soit carré et pérenne, il faut des salariés. Donc, au bout d'un an et demi, je demande à quelqu'un que j'avais rencontré, qui est maman de Préma, une fille extraordinaire, d'être la présidente. Et donc, en 2006, Sophie Villeminot devient présidente de l'association et je deviens directrice salariée de l'association. La première personne que j'ai recrutée, c'est la psychologue, qui était pareil, un an et demi de bénévolat, puisque je l'ai rencontrée tout de suite, je l'ai rencontrée en janvier 2005. Et au bout d'un an et demi... elle commence à être payée par l'association. Pareil, tout petit. Et puis, petit à petit, voilà, ça grandit, on grandit l'équipe. Et ça a vraiment été une volonté de départ de structurer ça correctement.
Ouais. Et donc, pour ceux qui se posent la question, une association, donc c'est tu vis grâce à des donateurs, grâce à des subventions?
Alors, non, pas du tout les subventions. Non. Parce que pour ceux qui se posent la question, en effet, l'État... Moi, je me suis dit, l'État ne peut pas tout faire. Et puis, le temps d'avoir une subvention, il faut déjà avoir un peu roulé sa bosse et avoir des choses à montrer. Moi, je n'ai rien à montrer. J'ai que mon expérience. Donc, comment je m'y prends? Alors, d'abord, il y a un truc en France qu'il faut savoir, c'est que quand on a des articles dans la presse, on est légitime, ce qui est complètement faux. Mais c'est comme ça. Donc, je demande à ma sœur qui a une boîte de relations presse qui s'appelle Pressario. Je lui demande, elle s'appelle Hortense. Et je lui dis, Hortense, est-ce que tu peux m'aider? Mais bien sûr, on va faire un communiqué de presse, je vais le diffuser. Et tout de suite, comme c'est très nouveau... parce que je dénonce les chiffres qui sont énormes déjà à l'époque. Je me souviens plus des chiffres de l'époque, mais ça doit être 50 000 prémas. Aujourd'hui, il y a 60 000 prémas par an en France, c'est beaucoup. Avec les grossesses multiples, ça fait 50 000 foyers, ça fait 100 000 pères et mères qui ont eu cet accident de vie chaque année. Et donc Hortense m'aide et les retombées presse font que je commence à me faire un book. Et avec ce book, je vais en parallèle, je vais voir des boîtes qui ont un intérêt à parler auprès de cette population. Parce que très vite, je me dis, les donateurs, ils ne vont pas arriver tout de suite. Il faut que je finance l'association. Alors, au début, c'était sur mes fonds propres. On a souvent avec Myriam Danet, qui est la psychologue de l'association et qui est psychologue par ailleurs, qui a son cabinet. On se remémore en février 2005, on est parti à Liège, il y avait le premier rassemblement sur la prématurité. J'avais ma petite voiture. J'avais pris une petite chambre d'hôtel pas trop chère, on ne se connaissait pas du tout. Et en fait, la salle de bain, c'était une porte de saloon, une porte coulissante avec un espace comme ça en dessous, quoi. Donc, c'était
vive hyper... l'intimité.
Ouais, voilà. Et voilà, donc on se remémore les choses au début. Et puis en 2008, on s'est retrouvés à être invités toutes les deux pour faire une conférence... lors d'un symposium devant des médecins, on a été invité par un labo et là, on était à Biarritz dans un hôtel face à la mer avec spa. On était en peignoir sur notre chaise longue et on se regarde et on se tape dans la main. On se dit, Liège paraît très, très loin. Maintenant, on va parler devant des médecins et dans des conditions de rêve. Donc voilà, donc on prend la vie comme un... En fait, chaque événement de cette association a été comme un cadeau, même dans les mauvais moments. Avec du recul, c'est un cadeau, mais ça, je pourrais y revenir. Donc, c'est une grande aventure solidaire et tout de suite l'impression d'être là au bon endroit et avec beaucoup de signes. Je me rends compte que les signes, je les ai eus. Tu parlais de signes aussi tout à l'heure, mais les signes, on les a en fait. Il faut juste les voir. Par exemple, on me prend pour une folle quand je dis ça, mais je te jure que c'est vrai. Dès le début, alors, à l'époque, c'est encore la vieille qui parle, on n'avait pas de GPS et tout ça. Et donc, j'avais un plan de Paris, c'était un grand plan noir écrit en bleu. Les Parisiens connaissent ce grand plan. J'ai aucun sens d'orientation. Pour moi, c'est horrible. Et donc, je tournais mon plan dans tous les sens. J'avais des rendez-vous chez des sponsors potentiels en grande banlieue et je me perds dans ces trucs, c'est horrible. Et en fait, à chaque fois, dans mes rendez-vous à Paris ou loin, à chaque fois, je trouve une place devant. Et c'est un truc de fou. Et encore aujourd'hui, comme si on me disait, vas-y, t'es sur le bon chemin, tapis rouge, vas-y. Parce que c'est un truc solidaire, c'est un chemin solidaire. Et donc voilà, donc plein de petits signes comme ça. J'en passe évidemment des trucs de dingue. Pour revenir, tu vois, je suis intarissable, hein, je peux partir dans tous les sens, surtout quand je me remémore les débuts. Donc au début, j'ai un bureau de 2 heures par semaine à la Maison des Associations et puis une demi-journée par semaine. Et alors maintenant, je peux l'avouer, il y avait un standard, j'avais pas de numéro fixe à l'époque. Et dans les relations presse, je mets le numéro du standard. Demander l'association SOS Préma. Et je faisais appeler mes amis, en fait, pour montrer au standard qu'il y avait un vrai besoin. Donc, ils appelaient, ils disaient, c'est bon, j'ai pleuré au standard, c'est bon, t'as comptabilisé, ouais, c'est bon, ça fait 5 en 2 heures, c'est bien. Parce que je savais que ça allait marcher, mais au début, personne ne connaissait. Enfin, j'avais quelques vrais appels, mais pas autant que ce qu'il y avait. Et donc, après, j'ai eu un bureau tous les matins. Et après, un bureau à temps plein, et ensuite, 2 bureaux. Et à partir du moment où j'avais un bureau à temps plein, j'avais le droit d'avoir une ligne. Tout de suite, j'ai pris, très rapidement, j'ai pris un 0800 pour que ça soit gratuit pour les familles. Parce que pour moi, c'était une donnée de départ. Je voulais absolument que lorsque les familles vivent cet accident de vie, eh bien, ça soit totalement gratuit et qu'il n'y ait pas de conditions de ressources. Voilà.
Tu m'étonnes. Et ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux personnes qui veulent se lancer du coup dans des associations. Ouais, c'est vrai que c'est marrant que tu me parles aujourd'hui de la Maison des Associations parce que ce week-end, je faisais mes rideaux avec ma machine à coudre et je me remémorais ces cours de couture que je prenais avec une de mes meilleures amies à l'époque. Et petite parenthèse, je me disais justement que je voulais faire un post Instagram pour dire aux gens, rappelez-vous le type de cours que vous faisiez quand vous étiez jeune, parce que, bon, en tout cas, si c'était vous qui les aviez choisis et pas vos parents, ça en dit beaucoup sur ce que vous aimez faire et qui vous êtes, et parce que bah, la vie continue et parfois on a un peu tendance à oublier ces petits trucs. Et oui, le conseil, c'est de dire, en effet, renseignez-vous si dans votre ville, il n'y a pas une maison des associations, pour se dire que si vous ne voulez pas faire ça depuis chez vous, de pouvoir le faire en effet avec un bureau. Et c'est top parce qu'on ne sait pas forcément que ça existe.
Ouais. Ouais, et puis même, c'est intéressant, je trouve personnellement, de se pencher sur ce qui existe dans sa ville. Ça, j'en ai pris conscience lorsqu'on reçoit des quêtes de mariage. Ça arrive parfois. J'ai trouvé
génial.
Que c'était hyper...
Je savais pas que c'était...
Ouais. On reçoit aussi des quêtes d'enterrement. Et en fait, les quêtes de mariage, j'ai trouvé ça très intéressant comme démarche parce qu'en fait, c'est le maire du village qui dit, ou de la ville qui dit, voilà, vous les jeunes mariés, vous êtes dans un moment le plus rose de votre vie. Eh bien, en fait, ça ne sera pas toujours comme ça. Et il y a des gens qui vivent des choses. Donc, en fait, on va faire une quête. Et vous, vous allez vous intéresser à ce qui se passe dans la ville et vous allez décider à quelle association on remet cette quête.
C'est top.
Et je trouve que c'est hyper intéressant comme démarche.
Et du coup, c'est là une quête au moment du mariage civil ?
Ouais.
OK. Super. Ouais, voilà. C'est une super idée. Bon, s'il y a des maires ou des élus qui nous entendent, ça peut être une super idée. Ou même si vous allez vous marier ou quoi, de demander si c'est possible de le faire, quoi. Ouais, c'est pas compliqué, mais ça peut changer la vie de personne, quoi.
Ouais, et puis je trouve que ça arrive dans un moment de vie, effectivement, où tout est beau, tout est rose, a priori.
Ouais.
Je trouve que c'est intéressant, humainement, très intéressant. Ouais, puis de réfléchir à deux, à ce moment-là de sa vie, à qui on a envie de donner, je trouve ça bien.
Et tout à l'heure, tu disais que du coup, il y avait eu des moments, des épreuves dans la création de l'association. Moi, j'appelle ça, inspirée de Christine Michaud, les cadeaux mal emballés de la vie.
c'est hyper joli. Ouais.
Et du coup, ça a été quoi ces fameux cadeaux mal emballés, en dehors évidemment de la prématurité de ton fils ?
Alors, forcément, je n'ai pas forcément envie de parler de tout. Parce que
Non, bah raconte ce que tu as envie de raconter, évidemment.
Ouais, alors, forcément, tu vois, l'association, elle va avoir 18 ans en octobre. Il y a eu des phases. Tu mènes pas 18 ans. Tu vois, moi, je, par exemple, quand je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale, puisque je te dis, c'est comme une entreprise, même si j'avais déjà managé dans mon ancien boulot, finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Manager dans une association, tu vois, je pense que j'ai eu un peu de mal à prendre ma place de chef, tu vois, de boss. Donc voilà, je ne sais pas. Ouais, il y a eu des moments où, je ne sais pas, financièrement, c'était difficile. Mais en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'à chaque fois que ça a été difficile, à chaque fois, je ne sais pas, que tu as une mauvaise nouvelle ou... je sais pas, tu perds un partenaire, par exemple, à chaque fois, juste derrière, tu as une bonne nouvelle. Et ça, c'est très vrai, mais pas que dans l'association, c'est souvent vrai dans la vie. Il faut juste le voir. Et c'est là-dessus que tu rebondis, c'est-à-dire, c'est à toi de souligner le truc qui va pas bien ou le truc qui va bien. Et en fait, j'adore ce truc, les cadeaux mal emballés de la vie, parce que finalement, on grandit avec tout ça. Enfin, c'est pas moi qui je veux pas faire la philosophe de bas étage, mais voilà, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. J'ai la chance d'être sur une cause absolument merveilleuse parce que c'est une cause d'avenir. C'est l'avenir de notre pays qu'on prépare quand on s'occupe des enfants. Que ces enfants-là, je dis souvent, si aujourd'hui c'est les plus petits, les plus fragiles, c'est aussi nos adultes de demain. Et donc, il faut mettre le paquet, en fait. Donc, tu vois, l'association, ce qui différencie cette association, je pense, c'est qu'elle elle fait bouger les lignes. Tu vois, donc les trois axes de travail qui ont toujours été les mêmes, c'est l'aide et le soutien en famille, avec 70 antennes sur le terrain. Le dialogue avec les équipes médicales, on fait de la formation, on travaille avec eux sur des trucs de recherche, des groupes de réflexion éthique et autres. Et la sensibilisation des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dézoomes l'histoire, ça, c'est une démarche assez intéressante, c'est que tu te rends compte que pour faire vraiment bouger les lignes, il faut que tu travailles avec tous les acteurs. Ça a été vraiment une démarche de départ. Moi, mon job dans l'association, en plus de gérer l'association, c'est le lobbying, c'est-à-dire faire bouger les lois, les réglementations. Et donc, forcément, bah, ça n'a pas toujours été facile, tu vois. Encore une fois, c'est parce que c'est le matin, je ne sais plus, je sais plus d'où je suis partie. Pourquoi je t'ai donné les trois axes
Sur le fait qu'on revendique, revendique toujours et chaque, ouais. On apprend de chaque chose.
Ouais, voilà. En fait, finalement, c'est ce que je dis. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ce que je dis au pouvoir public. C'est-à-dire que c'est notre demain qu'on prépare, et c'est une cause qui est absolument merveilleuse. Et donc, faut pas s'arrêter. Forcément, il y a des écueils. Forcément, il y a des difficultés. Sinon, ce serait presque pas drôle, tu vois. Et quand j'ai des difficultés, moi, je regarde souvent un électroencéphalogramme, tu vois. C'est-à-dire que les hauts n'existent que parce que les bas existent. Donc, tout est relatif. Et quand ça se termine, on sait pourquoi ça se termine. Donc, en fait, tu n'as pas envie que ça se termine. C'est pas grave. Les bas, il y en aura d'autres. Mais ils seront suivis de hauts. Voilà. Et si tu penses que les hauts sont suivis de bas, ben, en fait, il faut voir les choses dans l'autre sens. Les bas sont suivis de hauts. Tu vois,
et puis, on apprécie le bonheur d'être dans le haut parce qu'il y a eu les bas aussi.
Exactement, tout est relatif.
C'est un film que c'était un coach en gestion du stress et tout qui nous avait fait regarder ce film qui s'appelle Vice Versa, qui est un Pixar, je crois, qui est un dessin animé. Et ce film, en fait, il est génial parce que du coup, t'as des petits personnages qui sont les émotions. Et en fait… Il se passe un truc dans la tête du petit garçon et il y a des souvenirs qui disparaissent. Et en fait, tu te rends compte que, bah, par exemple, je crois que c'est la petite fille, elle tombe de la balançoire et après, elle fait un gros câlin avec ses parents. Mais ce gros câlin, il a un effet réconfortant parce qu'elle vient de tomber de la balançoire et qu'elle a eu mal, en fait. Et que si tu enlèves l'épisode de la balançoire et que tu as le câlin, mais en fait, ce souvenir, il n'a pas du tout la même saveur. Et tu te rends compte vraiment que dans la vie, il y a des choses… Enfin, c'est vu avec le prisme d'adulte. Les enfants, ils ne vont pas du tout voir la même chose. C'est d'ailleurs ça qui est génial avec les dessins animés. C'est que quand tu es adulte, que tu regardes un dessin animé, tu ne vas pas du tout voir les mêmes trucs. C'est vraiment ça de se dire, bah voilà, en effet, aujourd'hui, moi, je sais que je suis heureuse à Marseille. J'avais vécu à Marseille juste avant, mais… Comme j'avais quitté Marseille, bah, je me rends compte vraiment de ce que j'aime dans le fait d'être là. Tu le savoures les choses d'une façon différente quand t'as eu ces coups de, en effet, ces petites baisses de…
C'est exactement ça. Et j'adore ce film. J'adore ce film. Vraiment. Voilà. Donc, les hauts et les bas. Donc, en 18 ans, alors tu vois, je ne peux pas tous te les décrire, mais ouais, c'est… Qu'est-ce qu'on apprend? Ce que je retiens aussi, quand même, qui est très compliqué, et ce n'est pas une mise en garde, mais c'est que quand tu prends la lumière pour une cause, parce que pour une cause, il faut prendre la lumière, tu vois, tu es obligé de t'exposer, etc. Qu'est-ce que tu prends comme coup dans la vie? C'est incroyable. Voilà, ça renvoie les gens probablement à eux, justement, peut-être, je ne sais pas, leur frustration, le fait de ne pas avoir osé passer le pas ou de ne pas avoir… voilà. Et ça, c'est un truc… Aujourd'hui, ça y est, je suis parée pour ça, mais au début, tu n'es pas forcément parée. Et donc, moi, mon conseil, ce serait tout de suite de se faire aider pour gérer ça. Parce que quand on… C'est aussi un peu franco-français, mais quand on réussit, quand on… Voilà, on est sous les feux de la rampe, etc. Mais moi, tu vois, je dis souvent, je m'en fous complètement d'être sous la lumière. Et je suis sincère quand je dis ça. Je le fais vraiment pour la cause, mais je suis beaucoup mieux en Bretagne. Maintenant, je suis dans le golfe du Morbihan. Je suis beaucoup mieux en Bretagne, voilà, sans avoir fait de brushing et avec mes bottes en plastique. Je suis la plus heureuse du monde, quoi, tu vois. Mais voilà, la cause que je défends, le milieu dans lequel j'évolue pour défendre cette cause et pour faire changer tout ça, fait que… ben voilà, je prends la lumière. Et aujourd'hui, je l'assume complètement. Et avant, j'arrivais pas à dealer avec ça, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je suis bien dans tout ça. Et tant pis pour ceux à qui ça plaît pas, je m'en fous complètement.
Et beaucoup de détracteurs ?
Beaucoup, non. En fait, c'est toujours la même chose. Tu retiens. C'est détracteur, finalement, au bout d'un moment, c'est comme les personnes toxiques dans ta vie. Tu les as écartées, tu vois. Et puis, tu les vois venir. Donc, mais au début, tu penses que parce que tu fais quelque chose de bien, tu vas forcément avoir l'adhésion de tous. Bah, pas du tout, mais pas du tout. Donc,
On peut pas,
c'est
en fait, ce qui est fou, c'est qu'on ne peut pas imaginer quand on connaît ta cause, de se dire qu'il y a des gens qui peuvent dire non, mais c'est pas bien et il faut pas le faire ou.
C'est pas bien. C'est par exemple, tu vois, au début, moi, quand je suis allée voir des sponsors, donc je suis allée voir Pampers, Galia, Rivadis, enfin voilà, des boîtes, enfin Pampers et Galia étaient les premiers, des boîtes qui ont un intérêt à parler auprès de cette population, mais qui ont aussi des valeurs. Ça a été que des histoires de rencontres. C'est-à-dire, les sponsors que j'ai choisis, il y en a, ça n'a pas matché du tout, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est des histoires de rencontres et tu te rejoins sur des valeurs. Et pourquoi ça a marché? C'est parce que finalement, ces boîtes-là, ces gens-là, qui ont les manettes de finance, tu vois, en fait, tu leur donnes l'opportunité de donner du sens à leur journée et à leur métier, tu vois. Et finalement, on est tous en quête de sens. Donc, ça a super bien marché dès le départ. Sauf qu'il y a d'autres assos qui l'ont super mal vécu. Alors, dans la prématurité, il n'y en a pas d'autres. Donc, ça, c'était facile. Mais il y a des assos qui ont dit, ah, mais Vade Retro Satanas, elle est financée par le privé. Ouais, ok. Donc, sauf que moi, le public, je ne vais pas attendre. Puis, au début, tu ne comprends pas. Donc, tu essayes de te justifier. Puis, un jour, tu te dis, mais en fait, je m'en fous, quoi. Moi, je sais pourquoi je le fais, etc. Mais au début, quand tu es jeune, quand t'as un peu, tu pars la fleur au fusil, ben voilà. Mais c'est aussi l'expérience de la
Et
vie.
puis tu es accessoirement maman de deux jeunes enfants et en plus.
À cette époque-là, ouais, depuis, il y en a eu un troisième, mais effectivement, t'es un peu fragile au départ, tu vois, parce que tu comprends pas pourquoi tu prends des coups comme ça, tu vois. Et voilà,
On
mais bon,
n'imagine
ça.
pas quand même, c'est fou quand même, comme les gens peuvent être. Il y a des gens qui. Enfin, alors, le monde est beau, mais il y a quand même des gens qui ont un mauvais fond et c'est fou quand même de s'imaginer. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé, tu vois, ça, tu vois, à l'époque, j'avais interviewé Pauline Dorgeval, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Pauline,
Ouais,
c'était
de
la.
nom, je la connais pas.
Et Pauline, donc, elle a monté Millenniste d'Église de mariage et ensuite, elle a monté. Alors, je me trompe toujours, c'est deuxième avis, second avis. Enfin, l'idée, c'est en gros de donner un deuxième avis médical quand tu as un problème de santé. Mais Pauline, si tu veux, c'est une femme qui a un cœur, mais juste immense. Et elle, c'était pas du tout de créer une médecine à deux vitesses, c'était justement de donner l'accès aux soins à des gens qui n'y avaient pas accès, en fait. Et elle a eu une polémique, elle s'est retrouvée quand même dans le 20h de TF1, quoi. Parce qu'il y avait des médecins qui l'avaient critiquée, s'est montée en épingle. Mais tu te dis, c'est fou, elle était là juste là pour donner accès en fait aux soins au plus grand nombre, quoi.
Ouais, écoute, alors au-delà du, enfin, le mauvais fond, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux, très frustrés, très voilà, et c'est pour ça que je trouve génial ton podcast parce que en fait, il ne tient qu'à eux et il ne tient qu'à nous de se dire maintenant, aujourd'hui, ça ne me convient pas. Au lieu d'aller regarder dans l'assiette du voisin et d'être envieux et de donner des coups, tu vois. Alors c'est très simpliste, hein, ce que je dis. Mais finalement, il ne tient qu'à nous de se dire ça ne me convient pas, tu vois. Et il faut se faire confiance, il faut faire confiance en la vie. Si on se donne les moyens, on y arrive, quoi, tu vois.
C'est sûr. Comment tu écoutes ton intuition?
Ah, alors ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Comment j'écoute mon intuition? Comment j'écoute mon intuition? J'ai besoin d'être seule. Moi, je suis quelqu'un ouais, qui aime être seule, tu vois. Voilà, je suis bien dans la solitude. Alors, je suis pas souvent seule, hein, je te rassure. Je suis pas du tout un loup sauvage. Écoute, je pense que j'ai, ouais, à travers des moments. Tu vois, je t'ai parlé hors micro, je t'ai parlé du temps large qui a été conceptualisé par Joël de Ronay. Donc, ce temps large, c'est ces moments de respiration où tu te nourris d'une expo, d'une marche dans la forêt ou en ce moment avec les cerisiers en fleurs. Tu vois, j'essaye de me caser des moments comme ça que je programme. Parce que si je les case entre deux séquences de vie, ça ne va pas, enfin deux séquences de journée. Donc voilà, j'essaye de. Je crois que c'est dans ces moments-là. Tu vois, ça m'arrive de me faire des expos toute seule. ou avec mon chéri ou avec mes amis. Et pour moi, ces moments-là sont des moments de respiration, de récupération aussi et de future créativité. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça. Et je pense que c'est comme ça. Je ne peux pas te répondre, j'appuie sur un bouton et j'entends mon intuition. Je pense que c'est grâce à ces moments de pause, tu vois. Parce que finalement, nos journées, elles sont... Voilà, quand tu es mère de famille et que tu bosses et que tu as une vie sociale, et que, voilà, c'est des journées qui sont folles, quoi, qui sont folles. Et il y a un moment où tu te demandes après quoi tu cours, et le moment où tu t'es posé la question, bah, tu as déjà répondu qu'il fallait que tu te poses. Voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, du coup, je pense à ça, donc tu as eu un troisième garçon, donc qui a 9 ans. Ouais. J'imagine qu'avant de tomber enceinte, c'était forcément une inquiétude de te dire est-ce qu'il va être prématuré ?
Ouais, bien sûr. C'était une inquiétude. Le timing était très surveillé. Ça a été une réflexion vraiment d'avoir ce troisième. Et puis, donc, j'ai vu mon médecin. J'ai dit, OK, moi, je voudrais un troisième, mais je veux que ça arrive dans du coton, en fait. Donc, je veux programmer le truc. Je veux plus de SAMU. Je veux plus de hurlements, de machin. Voilà. Je veux programmer. Voilà. Donc, j'ai mis mes conditions. Aujourd'hui, je ne ferai pas la même chose si c'était à refaire. Voilà, mais en tout cas, ça m'a permis de vivre le moment plus sereinement.
Évidemment. Il est arrivé à terme.
Voilà, il est arrivé à terme. Tout bien comme il faut.
Super.
Il s'appelle Antoine. Parce que comme j'ai donné, je crois, les prénoms des autres, il ne faut pas que je l'oublie. Il s'appelle Antoine.
Donc, du coup, il y a Antoine.
Il y a Alexis l'aîné, ouais. Maxence. Maxence qui, d'ailleurs, a dans ses prénoms Paul, puisque Saint-Vincent de Paul.
Okay.
Et là où il a été hospitalisé en réa. Et ensuite, Antoine.
Super. Dans la vie, comment tu célèbres tes réussites ?
Ah, alors tout à l'heure, quand tu disais quand tu as une mauvaise nouvelle, ou je ne sais plus, en tout cas, il y a une image qui m'est venue. Pendant très longtemps, quand il y avait une bonne nouvelle à l'assaut, je montais sur la table ou sur ma chaise et je dansais.
Voilà. Ah, j'adore.
Ouais. Et alors maintenant, on a des chaises qui tournent.
C'est un peu plus dangereux.
C'est ça. On a été pendant longtemps, on a déménagé l'association. Alors, je l'ai déménagé en 2010 à Boulogne, puisque j'étais hébergée par une société, parce qu'après, la maison des associations, ça devenait trop petit. Et donc, à Boulogne, on a fait 2 bureaux. Et puis aujourd'hui, on est revenu à Neuilly, à quelques dizaines de mètres de l'ancienne maison des associations. On est pont de Neuilly. Et comme s'il fallait revenir aux sources, parce que la 18e année, on va dire que c'est une année un peu où il y a eu de la transformation. Il y a eu, voilà, on est devenu adulte. Je le vois comme ça. Donc, je ne monte plus sur les tables, mais le cœur y est et l'enthousiasme y est et l'équipe célèbre avec moi quand il y a des réussites, les miennes ou les autres, hein, tu vois, je ne suis pas du tout… Et on a tous nos réussites et on est très soudés et j'ai une équipe absolument formidable pour mener ce projet qui est de plus en plus précis, de plus en plus grand. Et qui nous emmène, c'est extraordinaire. Tous les matins, je me réveille en me disant, mais la chance que j'ai, Voilà.
À quel moment dans ta vie, tu t'es dit, pourquoi pas moi ?
Je ne me suis pas posé cette question, parce que pourquoi pas moi, ça veut dire, tiens, il a fait un truc dingue. Voilà, parce que moi, ça a été une opportunité dans ma vie que j'ai saisie probablement grâce à tous les outils qu'on m'a donnés. Enfin, que j'ai reçu, on va dire, tous les outils que j'ai développés après. Je pense que c'est une somme de choses qui font qu'un jour, les choses te paraissent évidentes. Et moi, ça a été sur un accident de vie. Je pense que dans la vie, tu vois, on parlait tout à l'heure du chemin, je ne sais plus si c'était chemin initiatique, je ne sais plus si c'était hors micro ou en micro, mais et en fait, sur ce chemin, on a tous nos écueils, évidemment, donc on l'a dit tout à l'heure, et en fait, tu as le choix d'en faire quelque chose, soit tu... Moi, en fait, c'est une notion que j'aimerais développer avec toi, c'est soit tu te considères comme une victime dans la vie, soit tu décides que tu es acteur. Donc, tu vois, je vais te donner un exemple. il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 que je n'avais pas vu depuis très longtemps, qui me dit « Ouais, bah, tu vois, mon mari nous a quittés. » Et il m'a quittée, il a quitté les enfants, et voilà, et je me retrouve, je suis dans la mouise, voilà. Et en fait, on discute, et je lui dis « Mais tu sais, en fait, je ne veux pas te donner de leçons, mais le jour où tu reformuleras la première phrase que tu m'as dite, déjà, tu seras sur un autre chemin. Tu seras sur une autre dynamique. J'ai été quittée versus nous nous sommes séparés. » Et en fait, quand tu réfléchis au wording que tu utilises, mais sans faire exprès, tu vois, sans en avoir conscience, déjà, tu es dans une dynamique, positive ou négative. Donc, moi, au début, c'était la prématurité m'est tombée dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai accouché prématurément. J'ai été césarisée en urgence. Donc, tout ça, c'est des trucs très passifs, tu vois. Et ça se transforme en plus jamais ça. Et je vais monter une association. Je vais faire quelque chose de grand. Puis, il y a des gens qui vont me rejoindre et des gens formidables. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les relations presse, je faisais appel à bénévoles. Et tout de suite, j'ai constitué un réseau de bénévoles. J'espère qu'on en a pris soin le plus possible et qu'on continue. On a eu notre séminaire de bénévoles il y a quelques jours.
Là, vous avez 6 salariés, du coup, et combien de bénévoles ?
Alors, là, il y a 8 salariés.
8 salariés, pardon, d'accord. Ouais. Ouais.
En fait, il y a des salariés et 2 personnes en honoraire. Tu vois, la psy, par exemple. Voilà. Et on a 70 antennes. Je crois il y a 80 et quelques bénévoles. Mais il y en a 57 qui attendent d'être recrutés, là. Génial. Sur la prochaine session de recrutement. Il y a 3 séances de recrutement. 3 sessions de recrutement. C'est Axana, à l'association, qui s'en occupe. Et donc, voilà. Donc là, elle vient de commencer une nouvelle session de recrutement. Et voilà. Mais on ne les prend pas tous. Pas parce qu'on dit qu'on ne veut pas les prendre, mais parce que tout le monde n'est pas apte après une expérience de prématurité, parce qu'ils sont tous parents de préma ou bébés hospitalisés à la naissance. Tout le monde n'est pas apte à un moment donné, à un moment T, en fait, de se tourner vers l'autre pour l'aider. Tu vois, il faut déjà avoir avancé sur sa propre histoire.
Ouais, on en parlait avec notamment avec Dominique, qui disait justement qu'il y avait des gens qui c'est pas qu'ils ne voulaient pas les prendre, c'est que ça ne correspondait pas aux besoins et par rapport à eux et par rapport à l'asso, et c'est pas le bon moment, quoi.
Exactement. C'est une question, c'est Myriam Danet qui dit ça, de temporalité. Donc, c'est pas la bonne temporalité. Et puis, il y a des gens qui ne seront jamais prêts, parce que pour plein de raisons. Et il y a des gens qui vont être prêts. Donc, ça nous arrive de dire, donc c'est Axana et Myriam Danet qui font le recrutement. Ça leur arrive de dire, ben, en fait, c'est un petit peu tôt. Peut-être qu'on peut se rappeler l'année prochaine ou dans 2 ans. Et en fait, ce temps-là, il est très important parce qu'un engagement bénévole, ça se mûrit. Ouais. Et quand on a bien mûri le truc, en général, on est plus apte. Voilà.
Apte à recevoir et à donner, du coup.
Voilà. Mmh. Voilà. On donne d'abord, mais c'est un vrai cadeau de donner, en fait, parce que tu reçois. Ouais. 10 000 fois plus.
Mais c'est marrant que tu parles de la posture de victime. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé notamment avec Nathalie Grimaud. Elle est maman de 4 enfants. Et à chaque retour de congé mat, elle s'est fait virer, mais de façon pas propre, dans 4 boîtes différentes. Et en fait, elle expliquait hyper bien. Elle disait qu'il y a un moment, elle s'est dit, il faut que j'arrête d'être une victime. Je ne suis pas une victime. En gros, j'arrête de subir, j'agis. Et ça a changé sa vie, en fait.
Ben voilà, c'est ça. En fait, quand on a conscience, je trouve, tu vois, rien que la phrase « j'ai été abandonnée » ou « mon mari nous a abandonnés », tu vois, quand cette personne m'a dit ça, moi, ça m'a frappée. Et en fait, je pense que ça a été quelque chose, un petit déclic pour elle. En tout cas, ça lui appartient maintenant, tu vois.
Ouais. C'est quoi la réussite pour toi ?
La réussite pour moi, oh là là, la réussite, c'est d'être en adéquation avec soi-même. Et c'est-à-dire, quand on dit être droit dans ses bottes, c'est plus large que se regarder dans le miroir. C'est-à-dire être soi-même. Alors, ça ne veut rien dire être soi-même, mais tu vois, se dire que tu es au bon endroit, à la bonne place, tu vois. Tu as le bon costume. Souvent, voilà, on rencontre des gens qui ne sont pas dans le bon costume. Ça fait de la peine, en fait, mais c'est leur chemin, tu vois. Mais ouais, être en adéquation avec soi-même, c'est la définition qui me vient.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Charlotte de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Alors moi, c'est plutôt la grande Charlotte qui dirait à la petite Charlotte « garde confiance ». Aie confiance parce que la vie, elle te réserve une surprise incroyable, une vie. Voilà. Et alors, qu'est-ce que dirait la petite Charlotte à la grande Charlotte si elle était là? Elle lui dirait. Attends, j'ai le droit de réfléchir 2 minutes?
Bien sûr.
Il va y avoir un gros blanc. T'as pas une musique?
Attends. C'est quoi? Je vais chanter la chanson. J'ai la voix complètement cassée là, mais ça, c'est vraiment toi que tu m'as soufflé tout à l'heure.
Écoute, qu'est-ce que la petite Charlotte dirait à la grande Charlotte en disant si j'avais su, j'aurais refait exactement la même chose. Je ferais exactement. Donc, si je savais ce qui allait m'arriver, je ferais tout pareil. Et là, je lui dirais, bah, moi, si j'avais su, je ferais peut-être pas tout pareil. Mais bon, c'est certainement ça qui fait que je suis devenue qui je suis et que je suis en adéquation avec moi-même.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. Ça a été quoi, du coup, pour toi, les renoncements dans la création de l'association?
Ouais, alors j'aime pas trop cette phrase, choisir c'est renoncer, je la connais, mais en fait, non. Non, j'aime pas cette phrase. J'ai pas eu l'impression d'avoir renoncé à des choses. J'ai l'impression, évidemment, d'avoir fait des choix. Donc, tu vois, par exemple, au départ, le choix de salaire, tu vois, un truc comme ça, mais c'est pas assez important dans ma vie pour me dire j'ai renoncé à un gros salaire. Donc, j'aime pas ça. Je préfère, dans la vie, on fait des choix. Et c'est important de les assumer, c'est important, voilà, mais parfois on les fait sans même en avoir conscience, tu vois. Moi, je suis partie dans cette aventure sans me dire, alors, tu vas partir dans cette aventure, mais tu vas renoncer à ça, et puis tu vas faire ça, et puis du coup, ça va faire que tu vas divorcer, et puis tu vas machin. Non, non, c'est voilà, on fait ce qu'on peut dans la vie, mais moi, j'ai renoncé à rien du tout. J'ai choisi, et donc j'étais actrice, voilà, de ma vie.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Dans l'histoire de l'association?
Ce que tu veux.
Joker.
Quelles sont tes plus grandes peurs?
Dans la vie ou pour l'association?
Dans le lancement de l'association.
Au début, tu veux dire, dans le lancement? Ouais. Quelles ont été mes plus grandes peurs? J'ai jamais eu peur. Jamais. Je pense que j'étais inconsciente à cette époque. Mais je savais, tu vois, cette petite voix, je savais que ça allait être grand. Et c'est grand, c'est riche de rencontres. Si tu voyais notre séminaire de formation des bénévoles, le dernier week-end de mars, mais si tu voyais les gens merveilleux, mais c'est incroyable. Des gens qui viennent de tous horizons et qui se rejoignent sur un projet solidaire. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils se rejoignent, ils ont décidé, tous, je me mets dans le lot, de donner du sens à une histoire qui n'en avait pas. Et que cette expérience aide les autres. Mais c'est extraordinaire. Non, mais moi, j'ai une chance inouïe. J'ai rencontré des gens formidables. Et puis les autres, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, ça fait bien longtemps que je les ai laissés sur le côté de la route à leur propre chemin. Tu vois? Parce que finalement, ton chemin, il n'est que le tien. Tu vois? Donc voilà, j'ai beaucoup de chance.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
De quoi je suis la plus fière? Je suis fière que le travail de l'association ait changé la vie de milliers de familles sans aucune gloire personnelle. C'est pas grave qu'ils sachent que c'est SOS Préma ou que c'est Charlotte Bouvard, en l'occurrence, pour le lobbying. On s'en fiche, tu vois. Mais je suis fière de cette aventure. Je suis fière que... Parce que l'asso, ce n'est pas que moi, hein, c'est une équipe. On en a changé des choses. Je ne vais pas refaire l'histoire de la prématurité, mais je t'assure, quand je regarde dans le rétro et que je me dis qu'il y a 18 ans, il y avait des horaires de visite, il y avait... voilà, et qu'aujourd'hui, je suis capable de dire à tous ces acteurs de la prématurité, stop, nous, les parents, on a décidé que ce ne serait pas comme ça. Et on va travailler main dans la main pour que ça change. C'est une fierté inouïe et c'est une fierté aussi de cette façon de faire, c'est-à-dire main dans la main. Ça, c'est une grande fierté. Tu vois, il y a des assos qui attaquent, qui sont toujours... c'est pas un jugement, hein, c'est leur façon de faire. Toujours dans l'attaque. Ouais, on va mettre des pancartes, on va faire ça, on va hurler, on va crier, on va mettre du sang partout en mettant du ketchup ou je sais pas quoi, tu vois. Et Et en fait, c'est d'une agressivité inouïe. Et j'ai toujours pensé que pour faire changer les choses, il ne fallait pas attaquer. Il fallait, alors, montrer patte blanche. Je peux dire que dans l'univers médical, il m'en a fallu des années. Il nous en a fallu des années pour montrer patte blanche. Parce qu'au début, c'est qui ces parents hystériques qui veulent nous donner des leçons, non? Et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout ça. Et que quand on travaille main dans la main, en fait, c'est extraordinaire. Parce que finalement, ce que je leur ai dit, c'est qu'on a le même objectif. C'est l'enfant. On n'a pas le même métier. On n'a pas le même rôle. On n'a pas le même langage. Mais on veut la même chose. Donc, on va se pencher au-dessus de cette couveuse, au-dessus de ce bébé qui, j'espère, est en peau à peau maintenant. Et on va chacun avoir notre rôle. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on ira plus loin. Et ça, c'est depuis 2012-2013 qu'il y a vraiment eu on s'est allié avec la société savante de néonates, c'est-à-dire la maison mère des pédiatres néonates, et avec les sociétés de périnates, les infirmières, les puères, les auxiliaires de puères, etc. Et c'est vraiment un travail commun. Et ça, je suis fière. Vraiment, je suis fière. Tu vois.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui te rencontre, qui voit l'association, qui ne connaît pas forcément ton histoire et qui te dit « mais tu n'en es là que grâce à de la chance ».
Bah ouais, elle a raison. Mais la chance, on se la crée. Mais elle a raison. Elle a raison. À la base, j'ai beaucoup de chance. À la base, j'ai des outils qu'on m'a donnés, tu vois. L'engagement pour son pays, sky is the limit, l'enfance à la campagne. Tu vois, c'est des outils qu'on m'a donnés, une éducation. Cette éducation qui fait que je suis bien dans tous les milieux. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Après, j'ai saisi l'opportunité. C'est une chance. C'est une chance inouïe d'avoir la capacité de saisir les opportunités. Donc, elle a raison. Ouais, elle a raison.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? J'aurais bien aimé qu'on me dise « prépare-toi, tu vas prendre des coups ». Mais ça n'aurait rien changé. Si, il y a un truc. Tu vois, j'ai pris un coach l'année dernière, parce que l'année dernière a été une année très difficile pour l'association. Et donc, j'ai pris un coach qui est un type formidable, qui s'appelle Julien, que je remercie. Et puis, j'ai fait un travail aussi moi-même. Enfin, voilà, tu vois, de toute façon, on n'a jamais fini hein, ce genre de travail. Et en fait, c'est un très bon conseil. Et puis, en fait, se faire aider par des experts, tu vois. Il y a eu également un cabinet de conseil en stratégie qui m'a aidé pour ce tournant de la majorité de l'association, en fait, tu vois. Et ça, c'est un mécène. Ce sont des mécènes en compétences parce que tu peux financer aussi ce genre de choses par du mécénat de compétences. C'est-à-dire les compétences qui sont mises au profit d'une association, c'est comme un don. Donc, il y a un reçu fiscal si tu es reconnu d'intérêt général. Et donc, de s'entourer d'experts qui peuvent t'aider. Et ça permet d'éviter certains écueils, de croire en soi aussi. Mais ça, on n'avait pas besoin de me le dire, mais ça, c'est un conseil que je pourrais dire. Et le truc que je dis souvent, qu'on m'a dit et qui m'a beaucoup aidée, c'est ne laisse jamais personne te faire douter de qui tu es. Jamais. Et ça, c'est le propre des personnes toxiques ou des personnes qui sont envieuses ou je ne sais pas quoi. C'est te faire douter tout d'un coup de qui tu es. Regarde-toi dans le miroir, tu sais très bien qui t'es. Alors ne doute pas, ne laisse jamais personne te faire douter de qui tu es.
Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Sky is the limit.
C'est quoi tes prochains défis?
Alors, mes prochains défis, eh bien, le 17 novembre 2021, nous avons lancé la charte du nouveau-né hospitalisé, que j'encourage tout le monde à aller voir. On a lancé une pétition d'ailleurs, si vous pouvez signer pour soutenir cette charte.
Tu me donneras le lien et mettrai sur le blog. Ouais.
Et on a déjà 30 700 signatures de gens qui soutiennent cette charte et ce sont en 10 points les besoins essentiels du nouveau-né à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il a besoin de ses parents 24-24, etc. etc. Et bien, notre prochain défi, parce que ce n'est pas que le mien, c'est vraiment... la famille SOS Préma va faire en sorte que ces 10 points essentiels deviennent des droits du nouveau-né hospitalisé. Voilà. L'enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents 24 heures sur 24. Ce n'est même pas un droit, c'est que c'est essentiel au regard des études scientifiques. Et tu vois, ça, c'est une charte qui a pris racine évidemment depuis 18 ans, mais dans le confinement, dans la crise Covid-19, qui en fait a fait que sur le terrain, il y a eu des aberrations totales, comme un grand hôpital qui a fermé 6 semaines aux familles. Pendant 6 semaines, des parents n'ont pas vu leur bébé et des bébés n'ont pas vu leurs parents. Et c'est absolument, mais inacceptable.
Ah, tu m'étonnes. Ah.
Donc, on a fait une tribune dans le Parisien. On a demandé à la SFN de prendre position. On a demandé au gouvernement de prendre position. On a fait des lettres, des courriers. On a saisi la presse. Enfin, voilà, on a fait en sorte que ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. Et que sur le territoire, les gens sachent un peu, tu vois, parce que c'était la panique hein, en début 2020. Et voilà. Et ça ne doit plus jamais se reproduire. Parce que c'est presque criminel quand on sait... qu'un enfant a à ce point besoin de ses parents, du pot à pot, etc., etc. Et ce sont des soins qui sont complémentaires des soins techniques et qui sont essentiels. Ouais.
Est-ce que on a compris du coup que tu aimais la lecture? Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à nous partager?
Oh là là. Alors moi, mon livre de chevet, ça a été pendant très longtemps La vie devant soi d'Émile Ajar, Romain Gary. Alors, en ce moment, je n'ai plus le temps de lire, pour être très honnête. J'aime bien, on m'a offert le dernier bouquin de Jolien, qui est un philosophe handicapé, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Voilà, j'ai commencé à le lire par bribes et c'est très intéressant, c'est tout sur la joie. Je trouve que la joie, l'émerveillement, ça c'est quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, de l'émerveillement, et tant qu'on continue à s'émerveiller tous les jours,
ça fait partie de la psychologie positive, l'émerveillement. L'idée, c'est par exemple, un petit tip, c'est par exemple de te dire, dès que tu vois quelque chose de beau, tu le prends en photo, parce que du coup tu te poses 2 secondes, tu l'admires et tu regardes après tes photos et tu le revois et ça te fait du bien. Et vraiment garder ses yeux d'enfant et de se dire waouh, enfin tu vois là, moi je suis face à mon jardin, je vois tous les matins, j'ai un figuier juste devant mon bureau, et tous les matins je dis aux enfants regardez là, les feuilles elles grandissent. Mais c'est vraiment le temps de prendre ce temps, de se dire, là, oui, c'est un arbre qui a des feuilles qui poussent, mais c'est juste de se dire, regardez, c'est beau, quoi. C'est...
Ouais. C'est un super conseil. Mmh. C'est un super conseil. Donc, ouais, eh ben, tu vois, l'émerveillement. Ouais. Tous les matins, j'essaye. Moi, en fait, j'essaye, hein, tu vois, on est tous pareils. On court, on a des vies dingues. Mais ouais, il faut se forcer à essayer ça, de s'émerveiller tous les jours. Et alors, moi, j'ai un truc le soir avec mon petit dernier. Tous les jours, on fait les 3 kiffs du soir.
Ouais, ça correspond aux gratitudes dont je te parlais tout à l'heure dans le bullet journal.
Et ben voilà, donc on fait les 3 kiffs du jour. Donc c'est un fou rire, c'est un truc qu'on a vu qui nous a fait plaisir, un moment qu'on a passé. Et d'abord, c'est un moment où on se pose tous les deux et qui est un moment de complicité. Ça permet de se dire des choses et puis ça permet de s'endormir sur une note positive. Donc c'est une étude qui a été faite dans une maison de retraite. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. En fait, ils ont fait 3 groupes. Ils ont fait un groupe tous les jours où ils disaient ça, donc les 3 kiffs du jour. Un groupe où il n'y avait rien qui se passait et un groupe où c'était les 3 mauvais moments de la journée. Et en fait, ceux qui avaient des meilleurs marqueurs en fait, de vie, qui allaient mieux, une meilleure santé, bah, c'était évidemment ceux qui voyaient les choses en positif.
En fait, ce qui est fou, c'est encore issu de la psychologie positive. Ça, en fait, ça dit que le fait de focaliser ton esprit, en fait, à toutes les vertus dont tu as parlé, et aussi le fait de focaliser ton esprit sur quelque chose de positif, fait qu'en fait, tu vas plus voir les choses positives. En fait, tu vas attirer à toi les choses positives parce que du coup, tu vas essayer de les chercher. Et plus tu vas avoir du positif, plus tu vas avoir du positif. Hein, c'est vraiment l'effet boule de neige, en fait.
C'est exactement ça. Et tu vois, dans l'histoire de l'asso, quand je te disais c'est vraiment le tapis rouge sur vas-y, ben en fait, on m'a dit oui, mais c'est parce que tu vois pas les mauvais trucs. Ouais, peut-être. Ok. Moi, je vois que les bons trucs. Je vois déjà que quand j'ai un rendez-vous hyper important, tu vois, un jour, je me souviens, j'avais rendez-vous au ministère de la Santé, puis c'était hyper important. Et en fait, c'était complètement bouché. J'étais en voiture à l'époque. Maintenant, je suis en vélo depuis un moment d'ailleurs. Mais et je me disais, ah là là, mais comment je vais faire? C'est vraiment le truc qu'il ne faut pas que je loupe et tout. Et il y a devant le ministère de la Santé, pour ceux qui connaissent, il y a genre des places qui sont réservées. Et je crois que tu as 2 places ou 3 places publiques, quoi. Il y en avait une pour moi, mais juste devant. Je me dis, mais c'est génial. Et tu vois, et je vois que des trucs comme ça. Et les mauvais, ça ne m'intéresse pas, je ne les vois pas, tu vois.
Ça glisse.
Je ne perds pas de temps. Je perds pas de temps. Et tu sais ce que j'aime bien aussi, non, c'est je sais plus où j'ai vu ça dernièrement. Si tu remplaces je perds du temps par je perds de la vie, eh ben en fait, déjà, tu n'as même pas envie de t'arrêter au truc mauvais, quoi. Je perds de la vie. Il y a des gens qui me font perdre de la vie, tu vois. Les gens qui créent des problèmes. Tu as des gens qui créent des problèmes, qui te saoulent, machin. Et ben voilà. Non, non, non. Là, je perds de la vie avec vous, quoi. Ce n'est pas du tout pour dire que je suis mieux que les autres. C'est juste pour dire que ça ne me convient pas, quoi, tu vois. Voilà.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Ben, mon père, en fait. Tu vois, mon père qui est décédé il y a 4 ans. Voilà, j'ai envie de le remercier. Merci la vie. Merci la vie. J'ai une vie. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Cette personne qui me dira ça, elle a tout à fait raison. J'ai beaucoup de chance. Tous les matins, je me le dis.
Et si une petite chose, qui n'est pas une petite, mais qui est très importante, du coup, si les personnes ont envie de vous aider ou même qui ont besoin de votre aide, comment ça se passe?
Alors, il y a un numéro vert. Ça, c'est très important. Donc, sur le site, avec une permanence quotidienne, donc tu as un pédiatre, deux puéricultrices, une psychologue, des parents, dont une qui est spécialisée en tout ce qui est conseil administratif. On a une communauté Facebook. Alors, on a plus de 50 000 personnes qui suivent la page. On a 18 000 parents qui sont dans un groupe fermé et qui discutent. On a un Insta aussi qui est très suivi. Alors, pour nous aider, il y a un truc qui s'appelle la course des héros bientôt. Donc, on le fait à Bordeaux, à Lyon, à Nantes et à Paris en juin-juillet. Donc, ça, c'est bien. Vous pouvez venir courir ou marcher pour l'association. C'est à l'américaine. Il faut récolter des fonds voilà, pour avoir son dossard. Vous pouvez faire un don. Chaque don compte. Il n'y a pas de petit don. Et pour nous, c'est important parce que bah, je parlais des sponsoring et mécénat tout à l'heure, mais ça ne suffit pas. Et puis nous aider, bah, après, ça peut être aussi s'engager si vous êtes parent de nouveau-né hospitalisé. Et nous, on est là pour vous, pour ceux qui le vivent ou ceux qui l'ont vécu. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une maman qui avait accouché il y a 22 ans qui nous a appelés, qui a dû voir, je ne sais pas, une photo, un article, un truc. La porte, hop, s'est réouverte. Et elle nous a appelés certainement pour mieux refermer cette porte. Donc voilà, on est là, on est vraiment là pour les familles. On essaye d'être au plus proche de ces familles-là et de leurs préoccupations. Et on ne tarit pas d'idées, on fait des milliers de trucs. Je n'ai pas développé tout ce qu'on faisait, mais évidemment, on fait beaucoup de choses.
Génial. Un grand, grand, grand merci, Charlotte. Je mettrai de toute façon tous les liens sur pourquoipasmoi.co. Et puis, j'espère à très vite.
C'est moi qui te remercie, Charlotte, vraiment. Merci beaucoup. Ça m'a. Bah, tu vois, ce moment-là, bah, c'était une superbe respiration dans ma matinée et ma journée a super bien commencé. Je t'en remercie.
Merci beaucoup.
Merci encore, Dominique, d'avoir mis Charlotte sur mon chemin. Comme nous vous le disions dans l'interview, je vous mets le lien de la pétition dont Charlotte parlait sur le blog. Vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. En attendant, je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.